Il est 17h02 sur Radio Campus Lille 106.6 FM, c'était M83 avec leur chanson « Raconte-moi une histoire ». Sans plus attendre, nous poursuivons cette émission autour de la médiation culturelle en direction du Palais des Beaux-Arts. Pierre et Marion accueillent dans le studio Juliette Barthélémy, chargée des projets de médiation et des étudiants au Palais des Beaux-Arts. C'est à vous.
Bonjour Juliette Barthélémy, alors merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler du Palais des Beaux-Arts. Nous aimerions aborder avec vous la façon dont la médiation et les différentes expositions font dialoguer le classicisme et la modernité aux Beaux-Arts. Mais avant cela, on va un peu revenir donc, sur les Beaux-Arts et votre rôle dans cette structure. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le Palais des Beaux-Arts ?
Oui, en quelques mots, ça ne va pas être simple. Mais...
c'est sûr.
Déjà, le bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit en 1892. Voilà, un vrai bâtiment éclectique du 19e et qui accueille, puisque c'est ça. C'est son rôle dès le départ d'accueillir les collections des Beaux-Arts. Il a été construit pour ça. Et donc voilà, moi j'y travaille. Je peux commencer tout de suite par moi ou...
Oui, vous voulez que allez-y.
Non, ce sont des collections, je vais quand même insister un petit peu, ce sont des collections qui vont de l'archéologie jusqu'au 19e, un petit peu de 20e. Mais voilà, essentiellement de l'art ancien. Donc. Je continue.
Pouvez-vous nous parler aussi un peu donc, du coup, de votre parcours ? Comment êtes-vous arrivé à ce poste de chargée de médiation culturelle ?
Un poste de rêve, non ? Alors oui, d'abord j'étais étudiante en histoire de l'art à Lille 3. Donc j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Et puis ensuite, au cours de ma maîtrise, j'ai passé un entretien au Palais des Beaux-Arts qui avait réouvert quelques années auparavant, puisque c'était en 2000. J'avais passé une année à Londres, alors ça a son importance, puisqu'en fait, cet entretien, c'était en anglais pour être guide conférencier au musée. Donc ça me convenait bien. Je me disais, tiens, ça me permettra de continuer mes études, continuer à étudier l'histoire de l'art, et en même temps travailler... et être confronté un peu à cette réalité muséale. Donc voilà, j'ai passé les entretiens, puis une formation qui a duré quelques mois avec les conservateurs du musée. Et puis ensuite, voilà, j'ai été prise comme guide conférencière. Et j'étais 8 ans guide conférencière au musée. Et puis c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas, enfin qui est génial, hein, parce que c'est finalement la fonction première de la médiation, c'est l'idée de la transmission. Donc ça, pour ça, c'était vraiment génial, s'adapter à la fois des collections, des expositions qui changeaient beaucoup, des thématiques de visite aussi qui étaient très variées, et en même temps un public aussi très très varié. Et donc je me suis positionnée à un moment où le musée recréait en fait au sein de son service des publics un service de médiation qui avait existé pendant longtemps, pendant quelques années. De sa réouverture, au moment de sa réouverture, un service de médiation qui était tenu par 4 jeunes, on appelait ça des emplois jeunes à l'époque. Et donc c'était des emplois, on n'était pas très bien payés. Hein. Mais enfin, c'était une mission déjà de médiation vis-à-vis d'un public éloigné de la culture. Et ce service avait disparu avec les emplois jeunes et donc il a été réhabilité, recréé à ce moment-là au service des publics. Et donc, j'ai postulé et je suis arrivée sur ce poste-là en tant que contractuelle pendant plusieurs années aussi. Et puis, en 2012, j'ai été nominée sur un poste de rédacteur. Voilà.
D'accord.
Toujours sur la même fonction, en fait.
Et du coup, on va continuer un peu. Et quand on se promène dans les Beaux-Arts, on voit que rien n'est laissé au hasard. Il y a une politique de médiation très moderne qui se trouve d'ailleurs sous les choix d'aménagement. Est-ce que vous pourriez un peu parler justement de cette politique culturelle, cette politique de médiation culturelle qui est mise en place aux Beaux-Arts ?
Alors rien n'est laissé au hasard, c'est ça, c'est ce dont on rêve hein, quand même.
Tout à fait.
C'est pas le cas. Ce serait bien, ce serait le musée parfait. C'est pas le cas, mais en même temps c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est commune à l'ensemble du personnel du musée. Enfin, je pense, ou j'espère, mais qui est quand même insufflé par le directeur du musée, Bruno Girvaud, qui est arrivé en 2012 et qui a poursuivi le travail de ses prédécesseurs, bien sûr, Monsieur Brejon et Monsieur Tapier, mais qui a eu cette volonté quand même d'intégrer la totalité des gens qui travaillaient au musée dans la réflexion générale de la vie de ce musée. Donc par des petites actions, mais surtout par une grande qui s'appelle la rédaction du PSC, donc le projet scientifique et culturel du musée, qui est finalement souvent, la plupart du temps, rédigé par le conservateur en chef, le directeur de l'établissement. voilà, qui le fait un peu, je ne vais pas dire dans son coin, mais voilà, lui aussi, il a un idéal, il a un musée parfait, tout ce qu'il a envie d'y faire. Et donc, dans son projet scientifique et culturel qui est prévu pour une dizaine d'années, ben voilà, il écrit un peu ce dont il rêve. C'est donc souvent un sujet finalement assez personnel, alors qu'il parle de l'avenir du lieu. D'accord. Et c'est vrai qu'avec Monsieur Girvaux, on a eu cette réflexion commune, donc des tables rondes par thématique. Et on a d'abord projeté notre musée idéal à chacun. Et puis ensuite, on en a retiré des éléments plus concrets et réalisables aussi, hein, puisqu'il y a toujours la question financière qui vient parfois freiner nos envies. Et puis la question du temps aussi. Mais bref, ce PSC, il est en fin de rédaction et il donne effectivement un peu une idée de ce que devient le musée aujourd'hui, qui est vraiment en pleine mutation.
Et vous parlez de freins et je pense tout à l'heure à ce que vous disiez quand vous présentiez les Beaux-Arts en parlant du bâtiment, qui est déjà presque œuvre d'art en elle-même, bâtiment donc, du patrimoine. Et est-ce que c'est pas gênant justement d'avoir un bâtiment, un musée auquel on ne peut pas toucher, ça mène une contrainte dans la médiation, dans l'organisation des œuvres.
Oui, c'est sûr, mais je pense que tous les sites ont des contraintes. Alors c'est vrai qu'il y a la contrainte qui est liée au bâtiment. Bon, on en a beaucoup parlé au moment de la loi de 2005 et de l'obligation qu'avaient les sites qui reçoivent du public à être aux normes d'accessibilité. Donc c'est vrai que c'est souvent un problème supplémentaire. Mais finalement, je connais des musées plus récents, même très 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 récents, je ne vais pas citer, mais des musées très récents qui peuvent avoir les mêmes difficultés, puisque finalement ça demande que l'architecte et les équipes qui travaillent autour de la conception d'un musée y réfléchissent dès le départ. Ouais. Voilà. Et même si normalement ça doit faire partie des réflexions, ce n'est pas toujours le cas. Donc oui, on a des difficultés peut-être supplémentaires, il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Mais en même temps, finalement, ça n'est quand même pas... Enfin, ça ne doit pas être un frein à tout ce qu'on a envie de construire. Et on part de cette base-là, finalement. Hein, si on a un musée moderne, on va partir de cette base-là. S'il est plus ancien, on va partir de celle-là. C'est quand même une force aussi, d'avoir un bâtiment.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a la force de l'adaptation. Enfin, c'est vrai qu'il faut savoir à chaque fois prendre ce qu'on a et faire avec.
Voilà. Et en même temps, c'est quand même... on pourrait se dire, bah tiens, c'est un grand bâtiment un peu impressionnant. Donc finalement, c'est une contrainte pour le musée, parce que les gens n'osent pas toujours y rentrer. Mais c'est aussi une force, parce que le bâtiment en lui-même a vraiment une âme. Et une fois qu'on a franchi la porte, en tout cas, je pense que c'est un musée qui dit beaucoup de choses. C'est un lieu déjà qui dit beaucoup de choses.
D'accord. Et vous parliez donc du public qui n'ose pas toujours y entrer. Quel public vous visez exactement? Est-ce que vous êtes très large? Veut entrer et puis découvre
Je pense qu'on ne peut pas vraiment catégoriser le type de public qui entre ou pas. On pourrait imaginer que finalement une classe sociale qui est plus cultivée va y rentrer plus facilement. On se rend compte que c'est effectivement le cas, on ne va pas se mentir. Hein, des gens qui ont une culture déjà ou qui ont eu une culture depuis leur plus jeune âge liée au musée ou aux arts en général vont plus facilement entrer, certainement, ou se sentir finalement les bienvenus dans un lieu comme celui-là, tandis que des gens qui n'ont pas eu cette culture-là vont hésiter à rentrer. Mais c'est pas... Voilà, le travail qu'on fait aujourd'hui au musée, c'est de faire venir des gens qui ne sont jamais venus ou qui ne viennent pas assez souvent à notre goût, en tout cas. Et pour ça, il y a un travail avec, je pense, toutes les classes sociales. Même si mon travail à moi, il va plutôt être tourné vers des gens qui peuvent avoir des difficultés sociales, économiques, d'hospitalisation, de handicaps qui vont défavoriser leur venue. Et donc à moi et à toute l'équipe d'ailleurs du musée, à favoriser leur venue et de les aider à venir.
Et vous le dites, chacun aussi a un peu son rôle et c'est une grosse structure et du coup, il y a énormément de personnes qui s'occupent de la médiation, de l'aménagement, etc. Et du coup, je voulais savoir, si vous pouviez parler un peu plus de cette équipe qui est derrière tout ça. Qui sont les personnes, finalement, qui s'occupent de la médiation, de l'aménagement?
Oui. Alors, en fait, il y a 130 personnes qui travaillent au musée, si on considère l'ensemble des équipes. Et c'est important de les considérer, puisque finalement, la médiation, c'est... On pourrait en donner une définition... J'ai mes colliers qui claquent et je me dis que ça doit faire du bruit dans le micro. Voilà, donc c'est toute une équipe. La médiation, c'est favoriser la venue d'un public qui ne vient pas, qui vient mal, qui vient peu, ou qui vient. Voilà, il faut s'occuper de tout le monde. Et puis de créer des outils, des moyens de faciliter leur venue et puis leur découverte des œuvres. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde y travaille. Ça va être évidemment le service dans lequel je travaille, le service des publics, mais on travaille en transversalité avec l'ensemble des services, le service développement et communication qui chapeaute en fait le service des publics au musée, et également les équipes de conservation, forcément, avec qui on travaille aussi en transversalité et qui, voilà, qui font des choses qui ont forcément des conséquences sur le travail que nous, on va mener au service des publics. Pour la compréhension de ses œuvres, mais également les équipes administratives, les finances, parce que finalement, tout le monde est un peu dans le même bateau. Il va falloir mettre sur place un projet. L'ensemble des publics, des gens qui y travaillent sont concernés. Et puis également les équipes de surveillance, les équipes d'accueil, voilà, les équipes de muséographie, de régie des œuvres. Voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment... En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on y travaille.
Et finalement, l'enjeu, c'est travailler ensemble. Du coup, c'est vraiment s'écouter, s'entendre et pas faire chacun dans son côté. Et du coup, avoir une impression un peu de cacophonie. Il faut vraiment travailler ensemble dans une direction.
Oui. Ouais. Bon, évidemment, c'est la direction que donne le directeur de l'établissement.
Voilà, pour 10 ans, enfin pour ça.
Non, mais c'est ça. Si le directeur donne cette impression-là ou donne des directives qui vont dans ce sens, forcément, c'est plus simple de travailler, oui. Ça, c'est sûr. Faire travailler les 130 personnes ensemble, oui. Ça se fait pas sans petite... sont parfois des petites choses, hein. tout ne roule pas, mais je dirais que ouais, de manière un petit peu générale, c'est quand même, on travaille dans un bon climat.
D'accord. Donc, au Palais des Beaux-Arts, on ressent vraiment une volonté de mêler des événements modernes avec des expositions donc, classiques, par exemple avec l'Open Museum. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer qu'est-ce que l'Open Museum ?
Donc ça, c'est une idée avec laquelle notre directeur est venu quand il est arrivé au musée. Donc je l'ai dit tout à l'heure en 2012. Il avait cette envie du musée ouvert qui... Voilà, au sens très large, on parle beaucoup de démocratisation, mais c'est pas récent, hein, finalement. Voilà, on en a beaucoup parlé déjà avec Malraux, puis dans les années 70... Donc c'est pas un sujet nouveau et en même temps, je pense que le directeur avait cette envie aussi que ça ne soit pas que des mots, qu'une volonté qui soit toute très belle, mais un peu utopique, un peu philosophique aussi, une idée un peu générale qu'on pourrait se faire d'un musée qui est ouvert à tous, avec un grand écart avec la réalité. Donc faire un Open Museum, c'était permettre à une personnalité qui était extérieure au musée de rentrer dans ce musée et d'en faire un peu ce qu'il voulait. On parle de carte blanche aussi, hein, donnée à un artiste. Et volontairement, dès le départ, l'envie avait été de faire quelque chose avec un artiste qui était complètement extérieur à la sphère de la peinture et de la sculpture, qui sont les arts ou objets d'art qu'on trouve habituellement dans les musées. Donc cette première carte blanche, elle a été donnée à un groupe de musique électronique français qui s'appelle R. Et ensuite à un collectif d'artistes allemands qui s'appelait Interdoc, donc on l'a appelé l'Open Museum Donald. Et puis ensuite, je réfléchis, Zepp, le troisième invité, ça c'était aussi une belle expérience, de faire venir un auteur de bande dessinée. Et puis voilà, on se prépare activement en ce moment à accueillir Alain Passard, donc le chef étoilé. Français lui aussi et qui va venir donner sa touche au musée. Donc c'est le premier objectif quand même de ces Open Museum, c'était de se concentrer sur les collections permanentes, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une très très belle collection, donc c'est super intéressant et les gens viennent souvent à des... Bon, il y a des réguliers, mais il y a aussi des gens qui viennent à des moments un peu exceptionnels comme la nuit des musées ou les journées du patrimoine et qui en dehors de ça ne viennent pas. Il y a aussi des gens qui ne sont jamais venus au musée et ces Open Museum, leur première mission, c'était de travailler sur les collections permanentes, de les transformer par un regard extérieur et du coup, par ce biais-là, faire venir des gens qui n'étaient jamais venus au musée, ce qu'on appelle des primo-visiteurs. Et dès la première année avec R, mais surtout avec Donald d'ailleurs, on a eu 70%, je vais être à peu près dans les bons chiffres, 70% de primo-visiteurs, donc des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans le musée et qui, pour voir Donald, sont entrés à l'intérieur du musée. Et après, la stratégie, évidemment, c'est pour nous, hein, on va pas s'en cacher, c'est qu'ils viennent voir Donald, mais qu'à côté de ça, ils regardent les œuvres. Hein, puisque le principe, c'est à chaque fois que ces interventions artistiques extérieures soient des interventions à côté des œuvres. Donc si vous vous en voyez une, vous voyez l'autre, en fait.
Du coup, il y a vraiment une volonté de dialogue entre ces œuvres aussi. Enfin, on voit Exep qui intervient et qui a des projections sur les œuvres. On a Exep qui reproduit à côté ou qui pose des questions. Enfin, on a déjà une médiation à part entière. Et finalement, le passé qui dialogue avec le présent, la BD qui dialogue avec les œuvres classiques. Enfin, toujours
c'est effectivement un vrai dialogue. D'abord avec un artiste et puis aussi avec ce qu'il crée, donc avec sa création. Et c'est vrai qu'en même temps, l'idée, c'est pas non plus de trop s'éloigner de la fonction première du musée, qui est celle de présenter des œuvres anciennes. On est un musée d'art ancien quand même. Mais finalement, par ce biais-là, c'est ce qu'on fait aussi. C'est quand Zep critique le néoclassicisme ou parle du néoclassicisme, il va nous permettre à nous, intervenants dans le musée, de parler, par le biais de Zep, du néoclassicisme quand même. Voilà, on ne touche pas aux œuvres, finalement. On va orienter la vue et l'idée. Voilà, la vue du visiteur un peu différemment. On a quand même toujours un discours d'histoire de l'art.
Et c'est quelque chose donc de très atypique. Qu'est-ce que pense le public de cet événement? Est-ce que vous avez des critiques?
Aucune. Tout le monde est ravi. Bien sûr, mais finalement, je pense que... On peut pas, même si on est un musée d'art ancien, on peut pas uniquement vivre dans le passé. On est obligé d'avoir un regard un peu extérieur et de mêler les regards. C'est important de se dire que finalement, on n'est pas les seuls à détenir une connaissance. Moi, je pense que là-dessus, il y a un gros, gros travail à faire parce que c'est comme si c'était juste réservé à une élite, à certaines personnes qui étaient formées à l'histoire de l'art ou qui ont un regard formé aux œuvres. Et c'est pas le cas. L'œuvre d'art, elle est quand même conçue pour être universellement regardée. Et donc, il faut penser à tous les visiteurs. Mais donc, ne pas oublier le visiteur qui est celui qui venait déjà au musée avant qu'il y ait des open museums et qui venait pour... Il y a plusieurs fonctions, finalement. Un musée, il a plusieurs fonctions. Il doit travailler sur la fonction première qui est celle de la conservation. On conserve une œuvre d'art, on la protège, on la restaure aussi. Enfin, voilà. Et ça, c'est sa première fonction. Une fonction aussi de... on doit favoriser la contemplation. Ça, je pense que c'est une de ses fonctions essentielles aussi. Et on peut toujours venir au musée, même quand vous aviez Zep, d'ailleurs, vous pouviez continuer à venir au musée et ne pas regarder Zep si vous aviez envie de fermer les yeux pour ne pas le voir, parce que vous n'aimez pas la bande dessinée, vous n'avez qu'à fermer les yeux, mais vous pouvez quand même continuer à regarder la descente de Croix de Rubens, elle est toujours là. Et puis, il n'est pas partout non plus, et voilà, et c'est... Donc la contemplation, c'est essentiel, et c'est ce que recherchent souvent les gens qui ont une culture en histoire de l'art qui est un peu plus, peut-être un peu plus développée. Et donc, on laisse ces gens-là avoir cette visite plus classique, mais qui est aussi importante au musée. Et en même temps, favoriser d'autres regards, c'est important aussi. Mais évidemment, des critiques, il y en a, puisque des gens pensent qu'on dénature la fonction du musée. Ce qu'on ne pense pas, nous. Mais vont avoir cette opinion-là, et vont penser qu'on fait aussi des expositions plus simples, ce qui n'est pas le cas non plus. C'est difficile aussi, finalement, d'avoir un regard extérieur, et puis d'essayer de moderniser son musée, tout en gardant des collections qui ne changent pas, elles. Donc, oui, bien sûr, il y a eu des critiques. Mais il y a des critiques, certainement beaucoup plus de critiques positives que négatives. Et je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Ouais. Mais on est vraiment dans un musée du 21e siècle. En dehors, d'ailleurs, de tout ce qu'on discutera peut-être tout à l'heure du numérique. C'est entrer dans le 21e siècle. Voilà, on ne va pas rester empoussiéré. Enfin, on a déjà suffisamment de poussière, donc on ne va pas continuer à s'empoussiérer. On est obligé de s'ouvrir. Le musée, c'est aujourd'hui, c'est pas qu'un lieu de... C'est un lieu de contemplation, c'est aussi un lieu de vie. Voilà. C'est ça qu'il faut aussi voir. Ce sont des lieux de vie, des lieux où les gens viennent, un lieu où les gens échangent. Et on a un rôle à jouer au sein de la société. Je pense que les musées ont un rôle, comme tous les autres lieux culturels d'ailleurs, et sont des lieux de rassemblement. Donc on doit avoir un rôle au sein de cette société, et donc on doit bouger. Et l'Open Museum, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes. Mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui fait bouger les lignes uniquement chez le visiteur. Ça fait aussi bouger les lignes en interne. Ce n'est pas simple pour tout le monde. Enfin, c'est quelque chose qui met du temps. Mais quand on voit que ça fonctionne et que ça donne une dynamique aussi à l'ensemble du musée, je pense qu'on ne peut que adhérer. Mais il faut parfois plus de temps pour d'autres. Mais c'est pas grave, on est patient.
Merci Juliette Barthélémy. Maintenant, nous allons faire une petite pause en écoutant Blowing in the Wind de Bob Dylan.
Merci.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
past the wind of sand, before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is.
C'était Bob Dylan avec son titre « Blowin' in the Wind » sorti en 1963, une véritable chanson de protestation et l'hymne de toute une génération. Mais Pierre et Marion, vous nous parlez de la génération actuelle baignée dans le numérique. Je vous laisse la parole avec votre invité.
Merci beaucoup Théo. Donc on a pu le remarquer avec l'exposition ZEP, les Beaux-Arts utilisent de plus en plus le numérique comme outil de médiation.
Oui.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les âges justement qu'en font les Beaux-Arts de ce numérique?
Bon, je parlais du musée du 21e siècle, donc forcément, 21e siècle dit numérique et l'introduction du numérique dans les musées. Donc, c'est une question qui a été prise à bras-le-corps par une de mes collègues qui est attachée de conservation et responsable du département du 18e, mais également responsable du numérique et en charge du numérique au musée, Florence Raymond. Et oui, c'est une question qui a été prise notamment dans le cadre du projet scientifique et culturel dont je parlais tout à l'heure. C'était l'introduction de ce numérique de manière pérenne, c'est-à-dire dans les collections. Parce qu'avant ça, évidemment, on a fait quelques... il faut toujours faire des petites expériences avant, parce que c'est évidemment le moyen d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, de s'appuyer aussi sur ce qui existe déjà dans des pays qui sont peut-être plus avancés, je pense aux États-Unis, au Canada, et puis dans d'autres musées, hein, qui sont, je pense, au Mucen aussi. Donc s'appuyer sur des expériences et puis d'imaginer quelle sera la place de ce numérique dans un musée d'art ancien, puisque le numérique ne va pas remplacer évidemment les outils de médiation traditionnels, mais en même temps il va venir suppléer, il va venir accompagner et donner parfois de la force et de la vitalité à ces outils de médiation. Donc ça a été quelques expériences qui ont été... Bon, déjà, on a évidemment le numérique, on a introduit forcément des applications sur des supports iPod, par exemple, pour découvrir les collections permanentes du musée. Et puis on a aussi fait des applications au moment de quelques expositions temporaires. Là aussi, c'était expérimental, parce qu'on voulait savoir si c'était pris, les appareils étaient pris, si les gens savaient s'en servir, etc. Évidemment, c'est pas une question qui se pose pour la nouvelle génération, mais puisque je parlais tout à l'heure du visiteur peut-être plus classique ou plus ordinaire, lui, il a un profil 50 ans. Alors si je me rapproche des signes distinctifs du visiteur classique d'un musée d'art ancien, c'est ça, c'est 50 ans, plutôt des femmes, plutôt cadres, enfin voilà. Et donc on n'était pas sûr que tout le monde sache s'en servir. Donc voilà, il y a eu des expérimentations et ça fonctionne très très bien. Et puis parallèlement, aussi des applications qui ont été faites pour les enfants sur le même support en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, moi c'est pas ma spécialité le numérique, mais comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est des missions qu'on mène en transversalité. Donc moi je vais plus travailler avec mes collègues du service des publics dans les contenus, et puis évidemment avec mes collègues des services de conservation quand il y a des grosses expositions, même sur les collections permanentes. Donc ils vont travailler des contenus, et nous on travaille les contenus plutôt pour les enfants ou pour les publics familles. Et puis alors on a eu un gros travail qu'on a fait autour d'un outil numérique qui est une tablette tactile à destination des enfants, mais de tous les enfants, donc des enfants on va dire ordinaires et les enfants extraordinaires qui peuvent avoir des difficultés de compréhension du français, donc les nouveaux arrivants par exemple, mais aussi les enfants sourds, les enfants avec un handicap mental comme l'autisme. Enfin voilà, c'était essayer d'imaginer un outil qui puisse convenir à tous. Et donc on a travaillé avec Signes de Sens, une association lilloise qui a une grande expérience sur ces outils adaptés. Et on a, voilà, tous ensemble permis la naissance d'une tablette tactile qui permet la découverte de quelques œuvres des collections permanentes du musée. Et qui est toujours en service. Donc la grande question d'ailleurs au départ, c'était est-ce qu'on rend ces outils facilement accessibles au public aussi en termes de prix. Et donc le choix a été fait d'inclure le prix de l'outil, donc de l'iPod ou de la tablette tactile, au tarif d'entrée du musée, au billet d'entrée du musée. Donc voilà. Donc quand vous prenez votre billet, qu'il soit payant ou gratuit d'ailleurs, hein, selon les personnes, eh bien, vous pouvez avoir accès individuellement, en tout cas, à ces outils. Et puis après, il y a une autre réflexion qui est en cours, d'ailleurs, et qui ne va pas s'arrêter, puisque le numérique ne va pas s'achever d'ici demain, sur la numérisation de certains outils à l'intérieur même du musée, dans l'atrium notamment. Donc, table tactile, et puis outils de découverte des œuvres. Je pense au plan en relief, par exemple, pour qui la numérisation, enfin l'outil numérique peut vraiment être un plus, puisque les plans en relief ne sont pas forcément accessibles visuellement. Enfin, ils sont derrière des vitres, dans un département qui est très très sombre, parce que c'est un département ce sont des plans qui sont très fragiles. Donc c'est peint sur, notamment avec du bois, de la soie broyée, des papiers gouachés, donc c'est très... On ne peut pas dépasser un certain nombre de luxe, donc ça ne facilite pas la visibilité de ces plans. Et c'est vrai que dans ce département, on imagine en 2018 un outil numérique qui pourra favoriser la visibilité de différents points à l'intérieur des plans relief. Donc c'est effectivement un projet très très large, et puis qui peut faire le lien aussi entre le visiteur quand il est chez lui et lorsqu'il arrive au musée et qu'il veut visiter, donc avec une possibilité de faire un choix d'œuvre, de créer son parcours aussi, d'arriver au musée, de faire le lien avec la table tactile qui sera mise à disposition dans l'atrium, faire son choix et créer son parcours aussi, puis ensuite avoir ses commentaires avec le parcours qu'on a soit créé à partir d'une première réflexion, une première vision, donc en lien direct avec le site internet qui a été tout récemment retravaillé et réouvert, donc il y a un an maintenant.
Bah, je pense qu'on a terminé.
Ça a été trop vite, dis donc.
Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous deux de m'avoir invité.
Ah, merci à vous, c'était vraiment
un plaisir.
Merci, c'est gentil. À l'année prochaine alors.
Oui. Merci à vous trois pour cet entretien autour de la médiation culturelle au sein du Palais des Beaux-Arts. Alors même s'ils s'appellent Trio, eux ne sont pas trois mais bien quatre, et leur chanson La misère d'en face, sortie il y a déjà une vingtaine d'années, est malheureusement toujours d'actualité. C'est La misère en face du groupe Trio. Thank you.